Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible sur ce texte de Luc au chapitre 18 que nous venons de lire, qu'Olivier a lu tout à l'heure. Pour ceux qui nous visitent, sachez qu'on est en train de faire une série de prédications sur l'évangile de Luc. Donc, dimanche après dimanche, on avance petit à petit dans l'évangile de Luc. Et c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de voir quels sont les liens entre les différents passages. Parfois, on prêche cette parabole du juge inique complètement hors de son contexte, ou on prêche la parabole du pharisien et du péager hors de leur contexte, sans se rendre compte qu'en fait, si Luc les a choisis, parce qu'il est le seul évangéliste à nous les transmettre, s'il les a choisis, s'il les a mis là, ce n'est pas par hasard. Vous voyez, il y a un lien avec ce qui précède et aussi même avec ce qui va suivre. En fait, si on remet les choses dans leur contexte, on découvre qu'à la fin du chapitre 17, si vous étiez là la dernière fois que j'ai prêché, il y a deux, trois semaines, on a vu que Jésus nous enseignait sur la manifestation du royaume de Dieu, c'est-à-dire comment et quand le royaume de Dieu allait arriver. Et on a découvert en fait que le royaume de Dieu est venu avec la première venue de Jésus. Mais il n'est pas venu de la manière dont les Juifs l'attendaient, et dont on l'aurait peut-être attendu nous aussi. Il n'est pas venu avec des canons, une armée et des bornes qu'on mettait pour marquer le territoire, des douaniers, des frontières. Il est venu de manière spirituelle. Et il nous a enseigné que c'est un royaume qui se répand dans les cœurs. Il sera au milieu de vous, il sera en vous, a dit Jésus dans les versets 20 et 21. Mais c'est un royaume qui se voit. Parce que quand les cœurs sont touchés, nos vies commencent à changer et on voit des fruits de l'œuvre de Dieu dans notre vie qui se manifestent à la vue de tous. Donc ça, c'est le premier élément qu'on a vu la dernière fois. Le royaume est venu, mais il n'est pas encore dans sa manifestation finale. On attend encore la manifestation finale du royaume de Dieu qui aura lieu lorsque Jésus reviendra. C'était ce que Jésus enseignait dans les versets 16 à 37. Et nous, là, on est un peu comme le jambon entre les deux tranches de pain, hein, dans un sandwich. On est entre la première venue et la deuxième venue. Et on est dans le temps qu'on peut appeler le temps du développement du royaume de Dieu. Et Jésus nous a enseigné, je suis toujours donc dans le chapitre d'avant, hein, on va arriver au texte d'aujourd'hui tout à l'heure, Jésus nous a enseigné que ce temps du développement du royaume de Dieu est un temps d'attente languissante du retour du Seigneur. C'était le verset 22. « Oh, viens, Seigneur !» Et normalement, quand on est chrétien et quand on voit tout ce qui se passe en nous, autour de nous, on soupire, n'est-ce pas, après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Un temps d'attente languissante, mais aussi un temps de séduction subtile. Avec des gens qui essaient de nous dire « Mais il est déjà revenu, allez là, allez ici !» Et c'était ce qu'on avait vu dans les versets 23 à 24. Et enfin encore, un temps où la souffrance et l'épreuve nous accompagnent jusqu'à la fin. Et je pense qu'on est tous, dans une situation ou l'autre, passés par des épreuves d'un type ou d'un autre. Et Don Carson, dans son livre sur la souffrance, disait « Si vous n'avez jamais eu d'épreuve, attendez, ça va arriver. » D'un air de dire, vous êtes peut-être juste trop jeune, mais avec le temps, ça va venir. Hein? Donc, ne vous découragez pas. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'épreuve, patientez seulement un petit peu. Hein? Parce qu'on est dans le temps du développement du royaume manifesté par ces trois éléments. Vous voyez ? Et notre Seigneur sait que dans ce temps du développement du royaume, on risque par moments de se décourager. Pour toutes sortes de raisons dans cette attente. Certains vont se décourager à cause de leur propre manque d'amour, de zèle pour le Seigneur. Ils vont dire, mais j'en peux plus, j'arrive pas, je progresse pas autant que je voudrais. Je promets que je vais plus le faire, je le fais de nouveau. Donc voilà un sujet de découragement. D'autres se découragent en voyant que leurs prières ne sont pas exaucées aussi rapidement qu'ils l'espèrent. D'autres encore risquent de commencer à douter de la réalité de la parole de Jésus, qui a dit il y a bientôt 2000 ans, voici, je viens bientôt. C'est long, 2000 ans, pour bientôt, n'est-ce pas ? Quand ma femme me dit, je reviens bientôt, j'espère que ça ne va pas durer 2000 ans. Hein ? On se dit, on espère que ça va aller assez rapidement. Hein ? C'est pourquoi, vous voyez, dans ce passage que nous avons ce matin, Jésus attire notre attention sur l'élément fondamental qui nous permet de persévérer dans la foi dans ce temps d'attente. Il vient de parler de ce royaume, ce développement dans lequel on se trouve, et il nous dit maintenant comment persévérer dans ce temps d'attente. Il le fait au moyen de deux paraboles. La parabole qu'on appelle du juge inique et la parabole du pharisien et du péager. Et ce sont deux paraboles qui mettent l'accent sur quoi ? Sur la prière. C'est pourquoi j'ai intitulé cette prédication « La prière » ou « deux points ». Gardez la foi jusqu'au retour du Seigneur. Vous voulez savoir comment persévérer jusqu'au retour du Seigneur ? La clé, nous dit Luc par les paroles du Seigneur qu'il a organisées comme ça, c'est la prière. Et j'aurai donc deux grandes sections, puisqu'il y a deux paraboles. La première, on va voir l'importance de la prière dans les versets 1 à 8. Puis ensuite, avec la deuxième parabole, on verra la bonne attitude dans la prière. Donc, l'importance de la prière, tout d'abord, versets 1 à 8. J'aurai la même structure dans les deux parties. On va d'abord commencer par examiner la parabole elle-même. Ensuite, on verra la leçon de la parabole, puis après, quelques applications pour nous. La parabole du juge inique. Dans cette parabole, il y a combien de personnes ? En fait, il y a trois personnes. Il y a le juge, il y a la veuve, et puis il y a l'adversaire de la veuve. Mais celui qui la traitait injustement, vous voyez ? On ne sait à peu près rien de lui, mais il existait quand même bel et bien. Est-ce qu'il faut savoir pour parvenir à découvrir l'immense détresse de cette veuve, c'est qu'à l'époque du Nouveau Testament, les cours de justice, les cours de tribunaux, étaient des lieux presque exclusivement réservés aux hommes. Parce que c'était un lieu rude, un lieu grossier, dans lequel on essayait de jouer des coudes. Et il était très difficile pour une femme de se défendre dans une cour de justice et dans un tribunal. Si bien qu'en général, lorsqu'une femme avait un litige, elle essayait toujours de trouver un homme dans sa famille ou dans son entourage, dans ses connaissances, qui accepterait de la représenter au tribunal. Et si Jésus, dans cette histoire, ce qui est une histoire inventée, hein, mais dans laquelle il veut nous enseigner une vérité, si Jésus prend justement une veuve qui doit aller elle-même au tribunal, c'est pour nous montrer l'immense détresse dans laquelle elle se trouvait. C'est une femme qui était vraiment seule, qui n'avait aucun appui, aucun homme dans la société à qui elle aurait pu demander l'aide ou la représentation. Ce n'est pas un hasard si Jésus nous parle d'une veuve ici. C'est pour souligner ce désarroi de cette femme qui est à la merci de la cruauté des hommes et du juge en particulier. En plus de cela, dans son histoire, Jésus place cette femme face à un juge complètement ignoble. Ça aurait pu être encore allé si en face d'elle, elle avait eu un juge compréhensif et patient et aimant. Mais voyez, Jésus, dans cette histoire, place cette femme face à un juge ignoble. Un juge, nous a-t-il dit au verset 2, qui n'a aucune crainte de Dieu et aucun égard pour les hommes. Toujours au verset 2. C'est-à-dire aucune sensibilité. Aucune empathie envers la condition de ceux qu'il doit juger. Vous voyez, il n'est pas sensible à la situation dans laquelle se trouvent les gens qu'il doit juger. Ainsi, c'est un homme qui fait ce qu'il veut, sans se référer à Dieu, ni à sa loi, ni aux prophètes de l'Ancien Testament, qui commandaient d'avoir des égards spécialement pour les veuves. Deutéronome 27, 19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Il y avait des droits particuliers pour les veuves. C'était un égoïste, en fait, ce juge, qui ne se préoccupait que de son confort, de sa notoriété et de sa tranquillité. La situation semblait vraiment désespérée, voyez. Une femme sans la moindre aide face à un juge complètement ignoble. Et pendant longtemps, ce juge ne voulut rien entendre de cette veuve, la méprisa et ne voulait pas lui rendre justice. Mais elle a persévéré. Il aurait pu se dire après une fois, non, il ne veut pas me rendre justice, bon, je rentre à la maison, tant pis, je vais vivre dans l'injustice. En fait, comment cette veuve est-elle arrivée à ses fins? C'est à force de persévérance. C'est en insistant sans se lasser, et en retournant jour après jour pour lui, comme le texte biblique dit, lui casser la tête. C'est-à-dire pour finir que lui-même soit lassé. Ainsi, voyez, c'est grâce à sa persévérance que ce juge impie a fini par lui rendre justice. Voilà pour la parabole. Maintenant, quelle est la leçon de cette parabole? C'est le verset 1 et le verset 6 à 8 qui nous le disent. Certains sont gênés lorsqu'ils entendent la description de cette parabole, la description qui est faite de ce juge, parce qu'ils pensent que Jésus est en train de comparer Dieu à ce juge impie. Et dit, mais mon Dieu, il n'est pas comme ça, il n'est pas... Et c'est vrai qu'il y a de quoi être gêné si on ne comprend pas bien la parabole. Parce que ce n'est pas vraiment ce que Jésus est en train de faire. Il n'est pas en train de comparer Dieu à ce juge impie, il est en train, plutôt on pourrait dire, d'opposer Dieu à ce juge impie. Il dit, à combien plus forte raison? C'est-à-dire, si ce juge impie, pour finir en justice, à combien plus forte raison mon Dieu qui est bon, qui est votre bon Père Céleste, rendra-t-il promptement justice à ses enfants? C'est-à-dire, si un juge inique répond à la requête persistante d'une misérable veuve, alors combien plus le fera Dieu, qui est un bon père pour ses enfants. Alors, quelle est la leçon principale de cette parabole? Elle est très simple. Et un commentateur qui commentait ce passage dit « La clé est sur la porte » pour trouver la leçon. C'est-à-dire, elle se trouve tout de suite au verset premier. Il n'y a pas besoin d'aller chercher la clé, elle n'est pas perdue, elle est sur la porte. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Voilà la clé. La leçon principale de cette parabole, c'est pour enseigner aux enfants de Dieu, aux élus, qu'il faut toujours prier et ne jamais se lasser. Pourquoi? Mais parce que l'on peut être sûr que Dieu rendra justice à ses élus qui crient à lui. On peut même être sûr, comme il le dit au verset 7, qu'il ne tardera pas à leur égard, mais qu'il répondra promptement. Pourquoi? Parce que ce sont, il le dit au verset 7, ses élus. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tarderait-il à leur égard? C'est-à-dire, ce sont ceux qu'il a aimés de toute éternité. Ce sont ceux qu'il a donnés à son Fils pour qu'il meure à la croix à leur place. Ceux qu'il a sauvés, ceux qu'il a régénérés par son Esprit. Et vous croyez qu'il est possible qu'après avoir donné son précieux Fils pour eux, il puisse se désintéresser de leurs cris et les abandonner en cours de route? C'est impossible, parce que Dieu fait promptement justice à ses élus, même lorsque ça semble aller long pour nous. Mais voyez, dans cette parabole, il est en train de nous dire, même quand vous trouvez que ça va long, Dieu agit toujours promptement, c'est-à-dire, il agit toujours au moment opportun. Il n'est jamais retardé par un bouchon sur la route, par un inconvénient ou un autre, pour intervenir. Il agit toujours promptement, c'est-à-dire au moment adéquat. Alors, l'application maintenant. Vous qui êtes lassés par les années qui s'écoulent et qui dites peut-être « à quoi bon prier ?» Pourquoi encore prier, puisque je ne vois pas de réponse? Puisque je ne vois pas de réponse dans cette épreuve, puisque je ne vois pas de réponse peut-être dans la conversion d'un proche, d'un enfant, d'un ami, d'un voisin. Que faire? Continue à prier. C'est ce qu'il est en train de nous dire dans cette parabole. Continue à prier, pourquoi? Mais parce que la prière est le moyen par lequel vous démontrez votre foi. Vous voyez, la prière, c'est le moyen par lequel on démontre qu'on compte sur Dieu et pas sur nous-mêmes. Parce que la foi, c'est un attachement à Dieu. C'est une dépendance de Dieu. Et en priant, on démontre qu'on est attaché à Dieu et qu'on compte sur lui. Et je crois que c'est là le sens de la question de la fin du verset 8. Quand Jésus dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Parce que cette question est une sorte d'exhortation dans ce contexte de prière, une exhortation implicite à persévérer dans la prière. Parce que la prière démontre notre foi. C'est lorsqu'on est conscient qu'on ne peut pas s'en sortir soi-même qu'on prie, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens, presque tous les hommes prient à un moment ou à un autre. Quand ils sont face à une catastrophe. Quand tout d'un coup, ils voient qu'ils ne peuvent plus s'en sortir eux-mêmes, ils prient. Alors on va voir que ce n'est pas forcément la bonne manière de faire plus tard. Mais voyez, tant qu'on s'en sort par soi-même, pas besoin de prière. Mais prier, c'est démontrer qu'on est conscient qu'on ne peut pas s'en sortir par soi-même. C'est un acte de foi. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi parce que la prière est le moyen par lequel Dieu fortifie notre foi et la fait grandir. Comment est-ce qu'il s'y prend? Parce que quand on prie, on réfléchit aux promesses de Dieu sur lesquelles on peut appuyer notre prière. On médite sur le caractère de Dieu auquel on s'adresse. Et ce Dieu qui a fait ses promesses. Et vous voyez, cet exercice nous encourage à aller de l'avant sans nous lasser. Et c'est même valable lorsqu'on ne sait plus comment prier. Ça arrive parfois. On dit, mais Seigneur, je sais même pas, j'ai plus la force même de réfléchir pour savoir que demander, ou je ne sais plus quoi demander. Parce qu'on a même une promesse pour ces moments-là. C'est ça qui est extraordinaire. On l'a lu dans Romains 8, verset 26, vous voyez? C'est la promesse pour les temps où on n'est même plus capable nous-mêmes de mettre nos idées en place et de savoir comment prier. Romains 8, verset 26-27, écoutez, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Vous êtes lassé de prier? Vous ne savez plus comment prier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Priez. Priez. Même si vous ne savez pas que demander, mettez-vous dans une attitude de dépendance de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, qui agit dans les enfants de Dieu, intercède de manière mystérieuse, je ne vais pas vous expliquer, mais de manière mystérieuse pour que Dieu lui-même voit cette intercession dans le cœur de ses enfants. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas seulement l'Esprit qui intercède, mais on l'a lu aussi dans Romains 8, le Fils lui-même, votre Sauveur, notre Seigneur, qui est assis à la droite de Dieu, intercède pour nous. Donc on a deux des trois personnes de la Trinité qui intercèdent pour nous, qui intercèdent auprès de la troisième personne en notre faveur. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il n'y a pas plus qui est possible que le Fils, l'Esprit, qui intercède avec nous auprès du Père. Voilà des promesses qui doivent nous encourager, n'est-ce pas? À toujours persévérer dans la prière et à ne jamais vous lasser, même quand il vous semble que la réponse tarde à venir. Parce qu'on a dans les cieux un bon Père céleste qui est appelé, dans le psaume 68, le Père des orphelins et des veuves. Cette veuve, vous voyez, qui était dans une situation de détresse incroyable, c'est nous, dans ce temps de développement de l'histoire du salut. Mais on a dans les cieux un bon Père céleste qui est là pour intervenir en notre faveur, qui prend plaisir à agir promptement en notre faveur, même quand nous sommes dans les moments les plus difficiles. Et il le fait par son Esprit et par son Fils. En particulier. Et puis, on a une deuxième parabole qui suit la première et qui nous montre quelle est la bonne attitude dans la prière. Parce qu'il y a prière et prière, en fait. Dans toutes les religions, on prie. Comme j'ai dit, à peu près tout être humain, même les athées, prient quand ils se trouvent dans des situations catastrophiques. Mais Jésus nous enseigne, par cette deuxième parabole, que toute prière n'est pas approuvée de Dieu. Il y a des prières, on peut dire, qui ne montent pas plus haut que ce plafond. Et il y a des prières qui sont approuvées par Dieu. Et que c'est une question d'attitude de cœur. C'est une observation importante, parce qu'aujourd'hui, on est vite rassuré. Quand quelqu'un dit « Oui, oui, moi je prie. » Ah bon, c'est bon, t'es de mon côté. Enfin, pas du tout. Parce qu'ici, on a deux personnes. Il y en a une qui priait, qui avait des prières magnifiques, d'un côté, on va voir ça, et qui n'a pas été justifiée par Dieu. Hein. Donc, soyez pas trop vite rassurés quand quelqu'un vous dit qu'il prie. Regardez dans quelle attitude on doit prier pour que Dieu nous accueille. Donc, on commence à nouveau avec la parabole, ensuite on aura la leçon, et puis l'application. La parabole, dans les versets 10 à 13, cette fois on a deux hommes qui représentent deux façons de prier très différentes. Tous les deux montent au temple pour prier. Parce qu'à l'époque, c'était assez habituel de monter au temple quand on voulait prier. L'un est pharisien, c'est-à-dire que c'est un homme religieux qui a l'habitude de prier. C'est presque un professionnel de la prière. C'est un homme qui savait faire des belles phrases. L'autre est un péager. C'est un exclu. C'est un paria de la société, parce qu'il pactisait avec les Romains. C'est un pêcheur, un voleur sans doute. Un homme qui ne connaissait probablement aucune belle formule officielle pour les prières acceptable. Le pharisien vient au temple et il pense prier. En tout cas, il commence en s'adressant à Dieu. Il dit « Ô Dieu !» Verset 11. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il fait dans toute la suite de sa prière? Il ne prie pas réellement. Parce que c'est lui-même qui est le centre de sa propre prière. Il n'est pas en train de louer Dieu, il est en train de se louer lui-même. Il se met sans cesse en avant. En deux versets, quatre fois, il dit « je ». Vous voyez, c'est humble, hein, n'est-ce pas? Comme manière d'agir. Hein. Il se met en avant, il se pense meilleur que les autres. En se comparant à ceux qui sont pires que lui au niveau moral, il fait étalage devant Dieu, et peut-être devant les autres aussi, de sa propre justice. Se croyant accepté par Dieu. Fin du verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. C'est vrai que c'est un homme qui a une moralité assez remarquable. Parce qu'à certains points, il va même au-delà des exigences de la loi. Il jeûne deux fois par semaine, alors que la loi de l'Ancien Testament n'exigeait qu'un jour par année, le jour des expiations. Il donne la dîme de tous ses revenus. Je pense qu'il insiste sur le « tous », sans doute, parce que dans Matthieu 23, on voit qu'il y avait des pharisiens qui donnaient juste même la dîme du cumin et de l'aneth, vous voyez, la dîme des petites graines que vous ramassez dans vos jardins, quoi, hein. Donc, ils comptaient, il y en a 100, je mets 10 graines de cumin pour Dieu, 90 pour moi, et voilà, hein. Ça allait jusque-là, hein. Mais son problème, c'est qu'il est orgueilleux et totalement inconscient de son péché et de son besoin de Dieu. Le péager, lui, est sans doute resté dans un coin un petit peu sombre du temple. Et tout son langage corporel démontre qu'il est conscient de sa misère. Au verset 13, on voit qu'il n'ose pas s'approcher, il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Tant il a honte de son péché. Il sait que Dieu est là, mais s'il savait vraiment les choses, il saurait que Dieu est partout, même s'il regarde en bas, Dieu est aussi là. Mais il n'ose même pas lever les yeux au ciel, tellement il a honte de son péché. Il se frappe la poitrine en signe d'humiliation. Il implore la miséricorde de Dieu. Cette conscience de son péché, et de son besoin de la miséricorde de Dieu se voit dans la construction de la phrase. Ça transparaît pas trop en français, mais en grec, c'est assez frappant. On voit, il dit « Dieu, pitié, moi le pécheur ». C'est juste ça la phrase, vous voyez ? Il s'approche de Dieu, « Dieu, pitié, moi le pécheur ». Il n'y a pas d'artifice. Il ne sait pas prier. Il ne connaît pas les belles phrases. Mais il vient en ayant un cœur brisé, conscient de son péché, de sa culpabilité devant la sainteté de Dieu. Et ça l'amène à implorer la grâce de Dieu. Voilà pour la parabole. Vous voyez, deux façons de prier. Mais quelle est la bonne ? Quelle est la leçon que Jésus en tire ? Et on doit faire attention, n'est-ce pas ? On pourrait vite être frappé et nous dire oh, « Quelle belle prière il a faite !» Puis l'autre, voit, c'est un peu nul. Hein ? Mais qu'est-ce que Dieu dit ? La leçon, verset 9 et verset 14. Verset 14, c'est que seul le second, le péager, a été justifié par Dieu. Et le pharisien, qui se croyait bon, est resté sous la condamnation de Dieu. Pourquoi ? Jésus l'explique au verset 14. À la fin du verset 14, il dit « Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. » Ainsi, par cette parabole, Jésus nous fait comprendre que la prière dans laquelle nous devons persévérer sans nous lasser, n'est pas un moyen par lequel nous tentons de nous élever, de nous mettre en avant par de belles phrases en nous vantant de nos mérites devant Dieu, mais c'est une attitude d'humble dépendance, une dépendance quotidienne de Dieu, dans laquelle nous confessons notre besoin constant de son pardon et de lui, de sa force dans tous les domaines de notre vie. Parce qu'aussi longtemps qu'on se met en avant, aussi longtemps qu'on pense qu'on a quelques mérites à faire valoir devant Dieu, on n'est même pas en train de prier. Parce qu'on est en train de s'exalter soi-même, de se reposer sur ses propres mérites, plutôt que sur la grâce et l'intervention de Dieu. Alors, quelle application de cette parabole pour nous aujourd'hui ? C'est une parabole qui nous encourage à veiller sur notre attitude de cœur lorsque nous approchons de Dieu dans la prière. Parce que la prière qui plaît à Dieu, la prière qui l'exauce, ce n'est pas forcément celle qui est faite par de belles phrases avec des mots pieux bien choisis. Mais c'est celle dans laquelle humblement nous confessons notre besoin de Dieu. Alors, il y a une application de cette parabole pour vous qui n'êtes peut-être pas chrétien et qui êtes là parmi nous ce matin. Vous dites, non, moi, j'ose pas m'approcher de Dieu parce que je ne sais pas comment parler. Je ne sais pas comment il faudrait que je fasse des belles phrases pour dire à Dieu, pour prier. Il n'y a pas besoin de belles phrases. Venez simplement avec votre cœur brisé, avec la conscience que vous avez de votre péché, de votre incapacité de satisfaire la sainteté de Dieu. Venez avec vos balbutiements, vos gémissements peut-être, vos mots qui font pas des belles phrases, c'est pas important. Dieu regarde au cœur. Venez tel que vous êtes, approchez-vous du Seigneur. Attendez pas d'apprendre à faire des belles phrases pour s'approcher de lui. Approchez-vous simplement avec un cœur sincère. Parce que Dieu est celui qui justifie. C'est ce qu'il nous est dit au verset 14. « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. » Dieu est celui qui justifie, c'est-à-dire qui pardonne, et il le fait au moyen de la vie de son Fils. C'est Jésus-Christ qui est venu dans ce monde s'humilier jusqu'à la mort sur la croix pour porter la condamnation que vos péchés méritaient. Ceux qui font que vous n'osez même pas lever les yeux vers Dieu. Christ les a portés à la croix. Il a pris sur lui la condamnation, la colère que vous méritiez. Et si vous approchez de lui, ainsi de Dieu, ainsi par Christ, il vous accueillera. Il met sur votre compte la justice parfaite que Christ a acquise pour les pécheurs. Ça, c'est l'application pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Mais il y a aussi une application pour nous qui sommes chrétiens. Parce que cette parabole suit celle dans laquelle on est encouragé à toujours prier sans se lasser. Et c'est vraiment fondamental de se rappeler que le pharisien qui a sa prière qui n'a pas été écoutée était un homme religieux. Et qu'il est facile, quand on grandit dans la foi petit à petit, de commencer à penser que parce qu'on comprend un peu plus de choses, parce qu'on commence à mettre les bons mots au bon endroit dans nos prières, on commence à mériter quelque chose. Et la leçon pour nous qui sommes chrétiens ici, vous voyez, c'est de se rappeler constamment que nous avons aussi besoin de toujours nous approcher de Dieu en étant conscient de notre incapacité, de notre péché et notre besoin du salut du Christ. Ce n'est pas seulement le premier jour, le jour de notre conversion, qu'on doit se sentir faible, humble et pécheur. Mais c'est tous les jours de notre vie, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et c'est un vrai... Je dirais, c'est un vrai travail, vous voyez. On a tous, je ne vous lance pas la pierre, hein, je suis devant vous et puis je suis exactement comme vous. On a tous ce germe de pharisaïsme dans notre cœur. On fait une belle prière dans l'église, on dit, oh, qu'est-ce que j'ai bien prié quand même. J'espère que les autres ont vu que j'avais bien prié. Mais on est tous comme ça. Et c'est ça qu'on doit arracher, c'est ça. Jésus nous dit d'arracher, vous voyez, arracher de nos cœurs cet esprit de pharisien, en se souvenant que constamment, tout au long de notre vie, on ne dépend que de la grâce de Dieu. Et tout ce qu'on est, tout ce qu'on peut faire, c'est toujours ce qu'une veuve misérable peut faire en s'attendant à ce Père, à ce Dieu qui est le Père et le défenseur des veuves. Alors que le Seigneur vienne nous encourager et nous aider les uns les autres à nous rappeler que tant qu'il n'est pas revenu, quand sera-ce, on ne le sait pas, mais tant qu'il n'est pas revenu, il nous faut toujours prier sans nous lasser, avec humilité et dans une attitude de dépendance du Seigneur. Amen.